autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs cosmologiquement vôtres, pour rendre hommage à une formidable et brillante astrophysicienne, Cécile Renaud, disparue brutalement le 4 avril dernier dans un accident de voiture. Cécile Renaud avait à peine 40 ans et déjà un formidable rayonnement, c'est le cas de le dire, dans la communauté des physiciens et cosmologistes du monde entier. Depuis son laboratoire à l'université de Grenoble, où elle étudiait le rayonnement fossile de l'univers, révélé par le satellite Planck, mais aussi au-delà, car Cécile Renaud était une formidable passeuse de science, co-organisatrice du Black Matter Day, le jour de la matière noire, à destination de tous les publics. Son blog, Cosmologiquement Vôtre, rassemblait des passionnés comme des amateurs. C'est une étoile de la cosmologie française qui a filé bien trop tôt. Voilà pourquoi nous avons eu envie de vous faire entendre sa voix et les voix astronomiques qu'elle nous faisait partager ici même, sur l'antenne de RFI. C'était le 4 avril 2013, soit exactement 8 ans, jour pour jour avant sa mort, la coïncidence est troublante. Autour de la question comment observer l'origine de l'univers, Cécile Renaud nous avait fait partager ses analyses du fond diffus de l'univers à partir des images collectées par le satellite Planck qui venait en 2013 de nous offrir la toute première image du Big Bang après 14 mois de balayage de l'univers en quête de ce rayonnement fossile. En hommage à l'enthousiasme astronomique avec lequel Cécile Renaud partageait cette quête, nous vous proposons de réécouter cet entretien réalisé et diffusé en direct le 4 avril 2013. In memoriam. Bonjour Cécile Renaud.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le voyage depuis Grenoble pour être en direct avec nous en studio à Paris. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de l'université Joseph Fourier à Grenoble. Et vous faites partie des chercheurs français qui décryptent, qui analysent les résultats de Planck, donc ce satellite de l'Agence spatiale européenne, dédié à l'étude du rayonnement fossile. Le rayonnement fossile, c'est quoi ? C'est la première image du Big Bang, l'instant où la première lumière de l'univers a jailli il y a un peu moins de 14 milliards d'années ?
Bah oui, c'est à peu près exactement ça. Alors pour un peu mieux saisir d'où ça vient, il faut repartir du Big Bang lui-même. Donc le Big Bang, disons que c'est le début de l'expansion. On a un univers extrêmement dense, extrêmement chaud. Petit à petit, donc l'univers s'étend, ça se refroidit et donc on va former de la matière, il va se passer des tas de choses. On a à un moment donné comme une espèce de soupe, la fameuse soupe d'Hubert-Reeves, avec de la matière qui est dissociée. On a des protons d'un côté, des électrons de l'autre, et puis notamment de la lumière, les photons, les petits grains de lumière. Et tout ça est en interaction permanente. Donc on a ce qu'on appelle un brouillard, c'est-à-dire qu'aucune lumière ne peut sortir de cet état. Et puis l'univers il continue de s'étendre, de se refroidir, et à un moment donné, la lumière n'a plus assez d'énergie pour éloigner les électrons qui, eux, ont tendance à se coller aux protons pour former des atomes, les atomes d'hydrogène. Donc à un moment donné, eh bien, les atomes vont se former et là, la lumière, elle n'aura plus rien avec quoi interagir puisque les électrons seront attachés aux atomes et donc elle va voyager librement.
Donc c'est ce moment-là que exactement. Le satellite Planck a réussi à capter.
Exactement, c'est à peu près 380 000 ans après le Big Bang. L'univers est à une température d'à peu près 3000 degrés. Donc la moitié de la surface du Soleil. Et donc si on était dans l'univers à ce moment-là, en fait, on aurait autour de nous un ciel quasiment aussi brillant que la surface du Soleil, un petit peu plus rouge, partout.
Voilà ce que Planck a réussi à capter autour de la question « Comment observer l'origine de l'univers ?» Nous, on va commencer par se mettre à l'écoute de ces premiers instants avec le mix de Guillaume Ploquin.
De Newton à Einstein, l'univers est décrit avec une précision croissante par les astrophysiciens.
Il s'appelle donc Planck, du nom d'un grand physicien allemand du début du XXe siècle.
Nous le savons, regarder loin dans l'univers, c'est regarder dans le passé.
Sa mission, repérer et enregistrer la lumière la plus ancienne produite dans l'univers, le fameux rayonnement fossile émis peu de temps après le Big Bang.
L'univers est apparu il y a 13,8 milliards d'années et sa composition est à peine différente de ce qu'on imaginait.
Tu veux bien me répéter ça ?
Une nouvelle carte très détaillée montre à quoi pouvait ressembler l'univers lorsqu'il était âgé de 380 000 ans.
Quand on regarde ces images, il faut toujours se dire aussi que c'est le résultat de grands calculs, ensuite de recompositions, c'est pas une observation directe.
Alors pourquoi chercher à photographier ce rayonnement fossile ?
Comment et pourquoi est-on passé de l'uniformité d'origine à l'univers organisé en structure d'aujourd'hui ?
C'est un gigantesque travail de tri dans les données avant de nous révéler donc ce fabuleux reportage photo des jeunes années de l'univers.
Et donc là, on est vraiment dans l'archétype de la donnée très difficile à collecter, qui a énormément de valeur et qui est exploitée après par tout un ensemble de chercheurs qui effectivement travaillent en réseau.
L'histoire de l'univers, même si elle est connue dans les grandes lignes, n'est pas encore gravée dans le marbre.
Cécile Renaud, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ?
Oui, il y a notamment l'aspect où il y a un intervenant qui disait qu'il y avait beaucoup de calculs derrière cette image, qu'on ne la voyait pas directement. Alors, c'est un petit peu vrai, c'est vrai qu'il y a du travail, mais c'est aussi un peu faux. Si on regarde le ciel avec les bons yeux, donc si on est sensible dans le domaine autour de 100 GHz, qui est les fameuses ondes submillimétriques...
Donc avec le bon télescope, avec les bonnes optiques.
Voilà, avec les bons détecteurs... Mm-hmm. Vous regardez pas dans le plan de notre galaxie, parce que là, vous êtes un petit peu pollué, mais vous regardez vers les pôles galactiques.
Très loin.
Juste en direction, en fait. Il faut, en gros, lever les yeux. Eh bien, vous voyez directement cette image.
On voit directement cette image qui fait la une de Science et Avenir ce mois-ci. Est-ce qu'on peut essayer, Cécile Renaud, de décrire pour nos auditeurs cette image, c'est quoi, de l'entièreté de l'univers, du rayonnement fossile, la première lumière aux premiers instants de l'univers ?
Alors, pour essayer de voir ce que c'est, déjà, il y a souvent, beaucoup de gens sont étonnés par ce caractère ovale de la carte. On imagine un univers plutôt rond, souvent.
Un peu comme, comme un œuf de Pâques.
Voilà, en fait, c'est une planisphère qui serait le mot qu'on devrait utiliser plutôt que carte. C'est-à-dire que la Terre, par exemple, c'est une sphère. Et on voit bien que souvent, on la cartographie en mettant sur une planisphère pour avoir l'équateur au milieu, long, et puis les pôles beaucoup plus petits en haut et en bas. Donc là, c'est pareil, sauf qu'on est dans l'univers. On regarde autour de nous.
L'univers, c'est tout. C'est au-delà de notre système solaire.
Largement. Par contre, il faut bien voir qu'on parle d'un univers observable, c'est-à-dire ce à quoi nous avons accès. A priori, l'univers est beaucoup plus vaste que ça, peut-être même infini.
Donc, c'est-à-dire que la carte, autour de la question comment observer l'origine de l'univers, la carte que le satellite Planck vous a permis de développer, c'est la carte de l'univers telle qu'on peut le voir, mais voilà. Il est peut-être encore plus immense que
largement.
Ça.
Largement. C'est notre univers observable, c'est notre horizon. C'est un peu si vous êtes sur Terre, vous regardez autour de vous, vous avez un horizon, vous avez accès à une certaine portion. La différence, c'est que sur Terre, vous pouvez vous déplacer pour aller voir ailleurs. Dans l'univers, on ne peut pas se déplacer ou à des échelles qui sont tellement insignifiantes que ça ne compte pas. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est regarder autour de nous. Et donc, on cartographie, donc on fait une espèce de coquille. Et la plus grande coquille à laquelle on ait accès, elle est définie, comme justement ça a été dit dans le reportage, regarder loin dans le temps, c'est regarder loin aussi dans l'espace.
Oui, c'est donc ça, l'astrophysique, c'est plus vieux, on voit loin, plus on voit vieux dans le temps.
Voilà, et il n'y a pas moyen de faire autrement. Vieux, c'est loin. C'est à la fois un atout et puis une difficulté. Enfin, c'est comme ça, il n'y a pas moyen de faire autrement. Et donc, on planque cartographie cette coquille autour de lui. Et puis ensuite, il le déplie pour le mettre sur une carte parce qu'un objet à deux dimensions, c'est plus pratique à analyser.
Autour de la question, comment observer l'origine de l'univers ? Comment on s'y prend ? Enfin, comment Planck s'y est pris ? Comment vous, ensuite, vous y prenez pour analyser, balayer comme ça l'entièreté de l'univers ?
Alors, déjà, on a utilisé un satellite. Donc l'avantage, le rayonnement fossile, il n'aime pas trop l'eau. Donc l'atmosphère.
Donc le rayonnement fossile, c'est le premier instant, la première lumière
de
l'univers.
Voilà, c'est cette lumière-là qui correspond. Alors je vous avais dit que l'univers était à 3000 degrés. Aujourd'hui, il s'est beaucoup refroidi parce qu'il s'est quand même passé presque 14 milliards d'années depuis son émission. Donc aujourd'hui, c'est 3 degrés au-dessus du zéro absolu, moins 270 degrés. Donc la lumière, à chaque fois, il y a une équivalence entre l'énergie, la température et la couleur. Et c'est les fameuses ondes submillimétriques. C'est là-dedans que le rayonnement fossile est visible.
Et voilà pourquoi aussi cette carte est en couleur.
Alors, les couleurs, en fait, c'est nous qui les mettons.
Ensuite.
Voilà, c'est-à-dire que c'est des chiffres, en fait. On a des filtres Alors, qui ne correspondent pas à rouge, bleu, vert, qui correspondent à différentes fréquences entre la radio et l'infrarouge lointain. Et ensuite...
Alors, à chaque fois, on parle d'ondes.
Voilà.
Et de plus en plus loin, les ondes changent.
C'est pas de plus en plus loin, c'est différentes couleurs. C'est exactement comme si on avait rouge, bleu, vert. Nous, on a différents filtres radio, submillimétrique, infrarouge. En tout, Planck en a 9. 3 avec un instrument, 6 avec l'autre. Et évidemment, on s'est placé dans une zone où le rayonnement fossile est largement visible, au milieu. Et puis, on a aussi plein d'autres émissions, puisqu'en fait, on regarde la coquille la plus grande, on va voir tout ce qu'il y a entre nous et cette coquille. Notre galaxie, malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres, toutes les autres galaxies. Et donc, il va falloir faire le tri entre toutes ces sources pour regarder uniquement le rayonnement fossile si on s'intéresse à ça, ou uniquement notre galaxie si on s'intéresse à notre galaxie, etc.
C'est-à-dire de mettre le focus, en fait, soit au plus loin, soit un peu plus près.
Alors, c'est pas tout à fait du focus, c'est plutôt un espèce d'effeuillage, c'est-à-dire que je vous ai parlé un petit peu de température. Si on ramène tout à des températures, ce qui est un bon exemple, en fait, le rayonnement fossile, il va avoir une température de 3 degrés Kelvin, au-dessus du zéro absolu. La poussière, par exemple, ça va être 15-20 degrés. Donc, elle n'aura pas la même émission dans les différentes fréquences. Et donc, on va ainsi pouvoir jouer sur ces propriétés physiques des différentes composantes pour les séparer. Parce que quand on regarde le ciel avec un détecteur dans une fréquence, dans une couleur, on voit tout ce qui émet là-dedans. Mais par contre, la proportion de ces constituants ne sera pas la même dans la radio, dans le submillimétrique et dans l'infrarouge lointain. Et donc, on peut ainsi un peu détricoter, en quelque sorte. On peut effeuiller et séparer les différentes composantes.
Pour arriver à voir ce qui vous intéresse.
Pour arriver. Et le rayonnement fossile, il a quand même, grâce à Planck, été reconstitué sur 97% du ciel. Parce qu'on voit toujours des cartes complètes. Il faut savoir qu'en fait, on ne voit pas le rayonnement fossile derrière le centre galactique, par exemple. C'est juste impossible. Il y a trop de choses devant nous. Aux autres endroits, on arrive un petit peu à le reconstituer. Alors après, on remplit les trous pour que ça soit plus joli. En général, les trous, ils font quand même 20 ou 30%. On a réussi à avoir 97% du ciel.
Donc que 3% de trous, c'est presque tout à fait ça.
Oui, c'est rien du tout. Alors après, on n'utilise quand même pas 97% pour faire de la cosmologie. Parce que...
Autour de la question comment observer l'origine de l'univers, on continue d'enquêter avec vous. Mais juste après, Nicole Willis and the Soul Investigators, Light Years Ahead sur RFI.
RFI, Radio France Internationale.
Nicole Willis and the Soul Investigators sur RFI Light Years Ahead. Autour de la question comment observer l'origine de l'univers, notre invitée est l'astrophysicienne Cécile Renaud qui décrypte pour nous les images des premiers instants de l'univers révélés par le satellite Planck, des résultats très attendus par la communauté scientifique, mais plus difficiles à appréhender pour nous, particulièrement difficiles à communiquer, comme nous l'explique Patrick Chompré, que l'on a entendu déjà dans le mix, en charge de la chronique Espace sur RFI. Il nous donne chaque semaine des nouvelles des étoiles et il a une question pour vous, Cécile Renaud. Écoutez.
«
Bonjour Cécile Renaud. Évidemment, ces résultats de Planck nous ont maintenus en haleine. On a été fascinés. Et pourtant, je vais faire un tout petit peu la fine bouche. On était presque un peu déçus, puisque finalement, il n'y avait rien de bouleversant. Disons que ce qui était le modèle standard est plutôt conforté par tout ça. Donc voilà, presque un petit peu déçu de ne pas trouver quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Heureusement, quelques petites surprises quand même, des fluctuations de température, une asymétrie et puis une tache froide qu'on a repérée sur une partie du ciel et qui serait beaucoup plus étendue que ce que l'on prévoyait. Alors ma question, à votre avis, cette tache froide, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est un mystère. Quelles sont les pistes de résolution de ce mystère?
Votre réponse, Cécile Renaud, qu'est-ce que cette tache froide peut bien cacher?
Alors, cette tache froide, elle cache peut-être une nouvelle physique, un nouvel ingrédient à ajouter c'est possible. Peut-être rien du tout. Voilà. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si on reprend notre idée de coquille, c'est qu'on a accès à un petit bout de l'univers. Là, Planck, quand les anomalies dont on parle, ça concerne tout des très très grandes zones de notre ciel. Donc typiquement, au moins dans les 15-20 degrés, ce qui fait une trentaine de pleines lunes, donc c'est quand même des très très grosses zones de l'univers.
C'est très loin.
C'est très loin, mais surtout c'est grand en taille et donc on en a peu. Si vous pavez votre sphère en zones qui font 20-30 degrés, vous n'en avez pas beaucoup. Et donc, statistiquement, vous pouvez en avoir des un petit peu bizarres. Vous ne pouvez pas savoir si c'est normal ou pas. Si on fait l'analogie avec les dés, si vous tirez 600 fois un dé, vous aurez à peu près 100 fois chaque face. Et puis, si vous avez 150 fois une face, vous trouverez ça un peu bizarre. Si vous tirez 10 fois un dé et que vous avez 3 fois 6, vous ne pouvez pas dire que votre dé est truqué. Mais là, c'est exactement ça.
Donc, vous pouvez uniquement l'observer.
Et est-ce que peut calculer la probabilité que ce soit normal. Et c'est à peu près 1%. C'est-à-dire qu'on estime que peut-être, sinon, on peut supposer que notre modèle est parfait.
Alors, le modèle standard dont parlait Patrick Chompré, et qui Planck n'apporte pas de bouleversante révélation, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a un peu compris. Alors, une partie de l'univers, on n'est pas étonné par ces images de Planck?
Alors, ce modèle, il a quand même maintenant 10-20 ans. Il a aussi été fait parce qu'il était assez simple, on arrivait à faire des calculs. On a ensuite énormément progressé dans les capacités de calcul, de modélisation, etc. pour chercher des tas d'extensions à ce modèle simple.
Donc ce modèle simple du Big Bang, d'expansion de l'univers?
Un univers en expansion qui part d'un Big Bang chaud, donc un univers très dense et très chaud en expansion. Les lois de la relativité générale, on met dedans, les constituants essentiels sont la matière noire et l'énergie noire.
La matière noire et l'énergie noire, on va y revenir parce que ça c'est assez mystérieux toujours.
Et on part à l'origine d'une distribution de petites fluctuations qu'on va laisser évoluer. Et c'est tout, il n'y a que 6 paramètres.
Ça fonctionne, enfin ce que Planck a montré, c'est que ça fonctionne.
Remarquablement bien. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient supposé qu'avec des données aussi précises que celles de Planck, on n'aurait pas trouvé des choses justement bizarres. Mais ce qui est étonnant, c'est presque de ne pas trouver des choses bizarres. Que l'univers soit aussi simple.
Voilà, c'est ça ce que vous nous dites, Cécile Renaud, c'est que l'univers, enfin il est simple. Dans cette simplicité, il y a l'énergie noire et la matière noire, on n'y comprend rien. Mais ce serait assez simple. Et ce serait ce modèle-là.
Il fonctionne. Après, il y a toujours des erreurs dans les paramètres, etc. C'est-à-dire que, par exemple, le spectre des fluctuations primordiales, celui qui aurait justement été généré par l'inflation.
Par l'expansion de
l'inflation. Donc l'inflation, c'est au tout début de l'univers, typiquement entre 10-35 et 10-30 secondes après le Big Bang. Voilà, donc c'est des chiffres qu'il faut aborder un peu mathématiquement parce que notre petit cerveau, là,
il a
du mal avec les millièmes de milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de secondes.
Même le vôtre, il a du mal.
Ah oui, il n'y a pas de souci.
Vous nous rassurez.
Et donc l'univers, pendant cette phase, il aurait grandi de façon absolument gigantesque. Et l'intérêt, c'est qu'avant, on avait des fluctuations quantiques, normales. Ça, c'est la mécanique quantique qu'on connaît bien qui nous le dit. Et cette phase de dilatation gigantesque aurait rendu ces fluctuations macroscopiques. Et ensuite, on les laisse évoluer. On ne fait plus rien. On les laisse évoluer dans un milieu qui contient de la matière noire et de la matière, après de la matière normale. On les laisse évoluer et continue toujours avec de l'énergie noire. Et c'est tout.
Et c'est tout hein, autour de la question comment observer l'origine de l'univers. Donc si dans 3 minutes, on se retrouve dans l'espace intersidéral. À tout de suite.
You baffle human race. I heard you're this big old place, but I wonder what lies under the sun. Such a tiny white dwarf, and you've begun. Do you think when your time is done, would you be so kind to spare mankind from the explosion? Oh, there's a loves to belong to your great legacy. Float among the stars and fly to Mars and back. Oh, how I wish you'd be swimming inside my own galaxy. So space can swallow me whole, or I'll be waiting for the black hole.
A song about space, signé par la chanteuse philippine Riz Langsangan sur RFI. Riz qui vient d'être contactée d'ailleurs par la NASA pour une collaboration intersidérale, comme quoi la musique mène à tout et jusque dans l'espace. Autour de la question comment observer l'origine de l'univers, nous poursuivons notre hommage à l'astrophysicienne Cécile Renaud, brutalement disparue le 4 avril dernier à l'âge de 40 ans, bien trop tôt pour une aussi brillante chercheuse, spécialiste du fond diffus cosmologique, du tout premier rayonnement fossile de l'univers, qui savait aussi avec quel enthousiasme partager sa science et même la quête de la matière noire avec le plus grand nombre, sur son blog entre autres, Cosmologiquement Vôtre, mais aussi sur notre antenne, deuxième partie de l'entretien que Cécile Renaud nous avait accordé le 4 avril 2013, autour de la question comment observer l'origine de l'univers. Cécile Renaud avait décrypté pour nous les images sidérales et sidérantes du satellite Planck, qui venait de capter pour la première fois le rayonnement fossile de l'univers, nous offrant du coup une image du Big Bang, sidéral et sidérant, comme nous le rappelait le philosophe des sciences et des techniques Vincent Bontemps.
Je crois que de tous les différents instruments techniques de la science, ceux qui sont liés à l'astronomie sont ceux qui bénéficient d'une image auprès du grand public la plus positive. Et ça s'explique. Ça s'explique parce que avant l'astrophysique, l'astronomie déjà bénéficie de cette aura de contemplation des cieux, de sagesse, de sérénité des grands espaces intersidéraux, et que cette idée-là, cette image-là, se communique finalement à l'astrophysique contemporaine.
Vous partagez l'avis de Vincent Bontemps, philosophe des sciences et des techniques, Cécile Renaud ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que l'astrophysique, ça fait rêver. D'une part, c'est beau. C'est vrai que la plupart des images d'astrophysique sont quand même extrêmement belles. Et puis, ça répond à des questions comme « Sommes-nous seuls dans l'univers ? D'où venons-nous ? » etc. qui sont des questions de tout temps.
De tout temps, existentielles et tout de même, hein, autour de la question comment arriver à voir l'origine, à observer l'origine de l'univers. Rien qu'arriver à se poser cette question-là et être, j'imagine, tous les jours dans votre laboratoire à essayer d'analyser les premiers instants de l'univers, c'est pas rien quand même. Ça fait basculer presque l'astrophysicienne que vous êtes du côté de la philosophie, une question métaphysique.
Oui, alors on prend du recul et on se pose ces questions de temps en temps. Après, concrètement, il faut aussi travailler et sortir les résultats et sortir les données. Donc c'est un petit mélange des deux. C'est vrai que la question sur laquelle on travaille, on a énormément de chance. C'est une question absolument fabuleuse. Essayer de reconstituer l'histoire de l'univers, son contenu, son évolution, son origine sur 14 milliards d'années. Et puis à côté de ça, il faut justement travailler les données pour sortir des données de qualité qui permettent de faire toute cette analyse.
Autour de la question comment observer l'origine de l'univers, on peut parler de véritables prouesses technologiques justement pour ces grands instruments avec lesquels vous travaillez, et ensuite pour le décryptage de ces images. Le magazine Science et Avenir parle d'une Ferrari dans le cosmos pour décrire le satellite Planck.
Oui, c'est vrai qu'il y a de la technologie absolument magnifique dans Planck. La principale prouesse, elle concerne tout le système de refroidissement. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a en tête l'image avec plein de petits grumeaux. ces petits grumeaux, en fait, ils sont minuscules. Ce sont des millionièmes de degrés. Des variations de millionièmes de degrés.
Donc on est dans l'infiniment grand de l'espace, et là vous nous parlez de choses infiniment petites, inimaginables aussi.
Tout à fait. Donc ce qu'il faut, c'est mesurer ces écarts de température dans différents endroits du ciel, plus fin possible. Et donc, l'intérêt de Planck, ce qui fait sa spécificité et son côté Ferrari, hein, parce qu'un an de Planck, c'est comme 450 ans de son prédécesseur WMAP en termes de sensibilité, c'est justement qu'il travaille avec des détecteurs qui sont extrêmement froids, 0,1 degré au-dessus du zéro absolu. Et donc Planck, la partie HFI a été l'objet le plus froid dans l'espace.
La partie HFI, c'est l'instrument à haute fréquence de
Planck.
Voilà,
c'est l'instrument à haute fréquence. Donc c'est un instrument très important pour la communauté française, puisqu'il est sous maîtrise d'œuvre française.
Il a été conçu
en France. Alors la partie cryogénique, elle a été conçue à Grenoble, construite juste à côté par Air Liquide, retestée à Grenoble. La maîtrise d'œuvre a été faite à Orsay. L'analyse des données, le centre de traitement, c'est à Paris, à l'IAP.
Donc, on est tous des chercheurs du CNRS qui analysent toutes ces données.
Voilà,
hein,
il y a quelques universitaires aussi, mais il y a 10 laboratoires, plus de 70 chercheurs. Donc, au niveau de la communauté française, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que le 0,1K dans l'espace, donc 0,1 degré au-dessus du zéro absolu, ça a été inventé à Grenoble.
Donc, on peut dire cocorico, là, pour le coup. Hein. vous, Cécile Renaud, vous êtes chargée de quoi ? Du traitement des données de cet instrument en temps ? Cet instrument HFI en haute fréquence du satellite Planck ?
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut enchaîner. C'est pour ça qu'on est quand même près de 500 dans la collaboration. Hein, il y a plus de 200 personnes par instrument. Il faut d'abord, en fait, le satellite, il envoie des mesures. Donc, chaque détecteur, il y a 52 détecteurs dans l'instrument HFI, qui prennent 180 mesures par seconde. Et donc, Planck balaye le ciel, il fait des tours autour sur lui-même. Et donc, le détecteur, il enregistre la quantité de lumière qu'il reçoit, 180 fois par seconde, et il envoie ses informations.
Oui, donc ce n'est pas des photos que vous recevez
non, les photos,
carte postale de l'espace,
non,
ça, de l'hiver.
Non, les fabrique.
C'est
voilà.
Ça, après.
Et donc, la mission, la nominale, c'est 500 milliards de mesures. Et à partir de ces 500 milliards de mesures...
C'est faramineux, là aussi.
Bah, il faut ça. Oui. C'est 180 images par 180 mesures par seconde, 50 détecteurs, 15 mois de données.
Donc après, il faut les reconstituer, les nettoyer.
Alors, il faut déjà enlever toute la partie instrumentale pour isoler la partie qui vient vraiment du ciel et qu'on va pouvoir mettre sur les cartes. Donc là, moi, c'est sur cette étape-là que j'ai essentiellement travaillé, puisqu'en fait, par exemple, dans les choses les plus simples, eh bien, vous avez aussi à voir l'émission thermique du télescope lui-même.
Ah oui, qui lui-même
peut varier,
produit de la chaleur.
Donc il va falloir corriger de ça. Vous allez avoir les rayonnements cosmiques qui vont venir attaquer nos détecteurs où il va falloir enlever cet effet-là, voire le corriger. Et puis vous avez la réponse optique électronique du détecteur qui a un certain temps de réaction, le plus faible possible. On parle en millisecondes, mais
quand
néanmoins
même.
Il faut le corriger. Et donc il y a toute cette étape-là de correction de tous les effets instrumentaux, en tout cas au maximum, pour ensuite... fabriquer les cartes, c'est-à-dire
reconstituer,
c'est-à-dire mettre à chaque endroit du ciel la bonne mesure. Avec là encore, il y a des effets pour enlever les variations à très très grande échelle qui pourraient rester. Et puis le fameux étalonnage, c'est-à-dire qu'il faut traduire la puissance qui vient du ciel en température.
Autour de la question comment observer l'origine de l'univers, ça n'est évidemment pas simple. Je vous propose un éclairage vu du Soleil. C'est celui de Jean-Claude Vial, physicien solaire de l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, laboratoire où a été conçu le HFI, l'instrument à haute fréquence du satellite Planck. Jean-Claude Vial nous éclaire sur les similitudes et les différences entre l'exploration du système solaire, donc beaucoup plus près de nous, et celle de l'univers tout entier, beaucoup plus loin de nous. Vous réagirez ensuite, Cécile Renaud.
Il y a sans doute des similitudes, dans le sens que ce sont des instruments les instruments solaires et les instruments Planck en particulier, qui sont donc envoyés dans l'espace, donc qui subissent les mêmes essais, les mêmes contraintes, etc. L'énorme différence, c'est que nos collègues de Planck observent donc ce rayonnement fossile qui est froid et donc, en conséquence, ne peuvent l'observer que dans des très grandes longueurs d'onde situées, disons, entre l'infrarouge et la radio, ce qu'ils appellent le submillimétrique.
Entre les ondes infrarouges et les ondes radio.
Voilà, entre les deux. Et ça, c'est un défi qui est peut-être plus grand que le défi posé par l'observation dans l'ultraviolet. Il y a beaucoup de bruit de fond, le détecteur lui-même a beaucoup de bruit.
Des ondes parasites.
Oui, des ondes parasites, et surtout, ça va dépendre de la température du détecteur et du télescope lui-même, parce que le télescope lui-même va produire du bruit de par sa température, donc il faut tout refroidir. Et le vrai défi là-dedans, c'est de refroidir l'instrument, le télescope, les miroirs, tout ça, et refroidir à des températures inimaginablement basses, enfin au moins pour moi, le détecteur. Donc nous sommes dans des situations différentes où nous n'avons pas à refroidir, disons modérément, hein, pour réduire le bruit d'un détecteur, on sait qu'il faut le refroidir, donc on refroidit à moins 20 degrés, moins 40 degrés, sur Planck, il faut refroidir pratiquement au zéro absolu. Quoi. Enfin, bon. Ce que j'admire aussi là-dedans, c'est également la prouesse au niveau du traitement des données, c'est-à-dire toutes les corrections instrumentales qui ont été faites, et qui ont amené à ces courbes de variation de température hypersensibles, enfin hyper petites. Donc cet instrument a donné des résultats uniques par rapport aux instruments précédents qui étaient pour l'essentiel américains.
Vous voulez réagir, Cécile Renaud, à cet éclairage de l'astrophysicien solaire Jean-Claude Vial? Quelle différence, quelle similitude entre aller regarder ce qui se passe près du Soleil, donc tout près de nous, même si pour nous c'est quand même loin, et puis aller regarder l'univers entier, et puis les premiers instants de cet univers?
Oui, alors déjà en ce qui concerne l'analyse des données, la prouesse, je voudrais revenir sur le fait que c'est pour ça que c'est vraiment un travail de collaboration. Qu'on met beaucoup de gens d'Europe, il y a aussi des Américains, quelques Canadiens, parce que personne n'a toutes les compétences pour faire l'ensemble de cette chaîne, justement, de concevoir les détecteurs, les construire, les mettre en œuvre, de faire l'ensemble de l'analyse des données. C'est vraiment un travail de très grande équipe, parce que sinon...
De collaboration, en échange. Voilà. Et pour dresser, c'est quoi? C'est la première carte aussi précise de l'univers entier?
Oui, c'est exactement. Alors, on avait déjà eu des cartes de tout le ciel faites par les deux satellites américains précédents, mais Planck est beaucoup plus sensible et voit des détails plus fins, 3-4 fois plus fins que son prédécesseur WMAP. Et il est beaucoup plus sensible. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on peut ensuite en déduire justement, alors la courbe dont il parlait, c'est la courbe du spectre des fluctuations. Donc on regarde l'amplitude des fluctuations en fonction de leur taille angulaire sur le ciel. Et c'est ça qui est directement relié aux paramètres cosmologiques, si on veut faire un petit peu plus simple. Voilà.
Oui, plus simple, je ne suis pas tout à fait sûre. Moi, j'ai envie de poser d'autres questions. Je ne sais pas si elles seront plus simples autour de la question comment observer l'origine de l'univers. Mais parmi les grandes questions sur lesquelles pourraient répondre les résultats de Planck, vous l'avez évoqué en début d'émission, c'est ces questions de la matière noire, de l'énergie noire. Donc, ce qu'on peut observer et on ne sait pas ce que c'est.
Oui, alors c'est la matière noire... Et l'énergie noire joue des rôles assez différents. La matière noire, en fait, à l'époque du rayonnement fossile...
Donc aux premiers instants de l'univers...
Voilà, 380 000 ans après le Big Bang, on a de la lumière, un peu de neutrinos, de la matière ordinaire et de la matière noire. L'univers est tellement petit qu'il n'y a à peu près aucune énergie sous forme d'énergie noire. Elle ne compte pas. Par contre, la matière noire, si on ne met pas de matière noire, on ne peut pas faire les grumeaux tels que nous les voyons.
C'est-à-dire que la matière noire, c'est de la matière, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il y en a.
Voilà.
C'est
ça. Ça agit gravitationnellement comme de la matière, donc ça attire et ça se voit à plein d'échelles. Maintenant, effectivement, on est sûr que ce n'est pas de la matière ordinaire, on dit souvent baryonique, celle qui compose tout ce qu'on connaît du Soleil, à nous-mêmes, notre planète, absolument tout ce qu'on connaît, c'est de la matière ordinaire. Alors, la physique des particules a de nombreux candidats.
Mais donc Planck a montré, enfin a continué de montrer qu'il y a ce grand point d'interrogation qui est cette matière noire qu'on ne connaît pas mais qui existe.
Alors oui, c'est-à-dire que dans le modèle, dans le paradigme actuel, après on peut essayer de tout remettre à plat et de tout réinventer, soit. Mais en tout cas, si on prend le modèle actuel, le modèle de concordance simple qui a seulement 6 paramètres, il contient de la matière noire et la quantité de matière noire est déterminée à mieux que 1% près pour être en accord avec les données de Planck.
Et la quantité de matière noire dans l'univers, au début de l'univers, c'est combien ?
Alors aujourd'hui, après ça peut changer, mais aujourd'hui, c'est 26%. Il y a 26% de matière noire, 5% un tout petit peu moins de matière ordinaire, et 69% d'énergie noire, puisqu'aujourd'hui, notre univers a énormément grandi depuis l'émission du rayonnement fossile. Et comme l'énergie noire ou la constante cosmologique, eh bien, elle prend sa place quand l'univers grandit. Aujourd'hui, c'est un peu plus des deux tiers de l'énergie de notre univers qui est sous cette forme-là.
Et cette forme-là, donc d'énergie noire, on dit ça aussi parce qu'on ne la comprend pas. On sait qu'elle existe, qu'elle n'existait pas au tout début, aux premiers instants de l'univers. Alors, on sait qu'elle existe.
C'est pas qu'elle n'existait pas, c'est qu'elle ne contribuait pas. Elle était négligeable. Voilà, c'est plutôt. En gros, c'est quelque chose qui ne se dilue pas. Donc, si vous avez une boîte qui fait un litre et que vous mettez du gaz dedans, si vous augmentez la taille de la boîte à 10 litres, ben la densité de gaz, elle va être 10 fois plus petite. Si votre gaz, il est coloré, vous aurez moins. L'énergie noire, non. Vous en mettez une certaine quantité dans un litre, vous en aurez 10 fois plus dans 10 litres. Donc, comme l'univers est grossi, le reste va se diluer, mais l'énergie noire, elle remplit l'univers. Donc, au fur et à mesure que l'univers grandit, eh bien, cette énergie-là, elle va prendre une part de plus en plus importante.
Et ça, Planck, enfin, les observations du satellite Planck le prouvent, le montrent, n'expliquent pas plus, hein, il faut chercher ce que c'est, mais montrent que ça existe, qu'on ne s'est pas trompé, et qu'il y a bien matière noire et énergie noire, on ne sait pas ce que c'est, mais ça existe.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit la taille sous laquelle on voit les principales taches, donc qu'on voit même à l'œil. Hein, si on regarde la carte, on voit bien qu'il y a des petits points très piqués qui sont à peu près à l'échelle du degré, qui correspondent à ce que vont devenir typiquement les amas, les super-amas de galaxies. Cette taille-là, on ne peut pas l'expliquer si on ne met pas de l'énergie noire. Et c'est d'ailleurs parfaitement cohérent avec d'autres observations. Alors, il y a des observations extérieures, qui sont les oscillations acoustiques de baryons, c'est-à-dire qu'on regarde où sont les galaxies aujourd'hui, mais surtout, Planck lui-même, et ça c'est la première fois que le rayonnement fossile est capable d'être ainsi autoconsistant, de faire tout seul d'une certaine façon, par l'effet de lentille, c'est-à-dire que le rayonnement fossile, on dit, il voyage jusqu'à nous sans qu'il lui arrive rien du tout. En fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'il va en fait être légèrement dévié dans sa trajectoire par la matière qu'il va rencontrer en chemin.
Et notamment par la matière noire.
Et la matière, eh bien, elle est dominée par la matière noire. Et on arrive à mesurer cette déformation qui quand même va adoucir les pics, les plus petites échelles d'à peu près 10%. Et on ne peut pas faire sans cet effet de lentille. Et tout ça est tout à fait cohérent. C'est-à-dire qu'on a, dans la carte du rayonnement fossile, on a trois informations. L'univers 380 000 ans après le Big Bang, l'univers typiquement 5 milliards d'années plus tard par l'effet de lentille gravitationnelle et l'univers finalement en gros 380 000 ans plus tôt quand on remonte au spectre de puissance initiale.
Autour de la question comment observer l'origine de l'univers, allez, la réponse est dans la lumière avec Camille sur RFI.
Autour de la question.
Quoi cette lumière juste au-dessus de moi? C'est quoi? C'est quoi cette lumière là par-dessus les toits? Par quel mystère tient-elle? Qui l'a mise là? Ce truc qui m'éblouit, je ne sais pas. Sur les flancs de la ville. accoucha d'un garçon. Mais que faire de ce fil? Soudain, elle refusa qu'il fût simple mortel, qu'il vive dans le noir, comme moi, comme vous, comme elle. Au milieu du ciel, elle suspendit son fils. L'homme sans ombre est né. L'homme sans ombre est triste. Il a beau être grand, il a beau être fort, l'univers à ses pieds. Il couche toujours dehors. Il brûle d'un désir qui jamais ne l'éclaire, qui inlassablement illumine la terre, les forêts, les marées. Depuis des millénaires, si l'homme sans ombre court, c'est qu'il cherche sa mère. C'est quoi cette lumière?
C'est quoi cette lumière? Camille sur RFI, autour de la question « Comment observer l'origine de l'univers ?» Nous décryptons la première image de l'univers, le rayonnement fossile, tel que vient de nous le révéler le satellite Planck, avec notre invitée, l'astrophysicienne Cécile Renaud. Des images qui confirment aussi l'expansion accélérée de l'univers, son évolution, ce qui n'est pas pour déplaire au prix Nobel de médecine Christian De Duve, qui était récemment notre invité.
Mon mot préféré, c'est « évolution ». Et l'univers, c'est une réalité en évolution permanente. Il y a eu un début, puisqu'on nous parle du Big Bang, et tout le monde semble être d'accord, ou presque, sur ce début de l'univers par une explosion primitive, l'atome primitif, comme l'appelait Monseigneur Lemaître, un très grand astrophysicien et mathématicien de mon université de Louvain en Belgique. Et il l'avait appelé l'atome primitif, c'est lui qui est le père du Big Bang. Et donc, puisqu'on a toute raison de croire que notre univers est en expansion, mais est en évolution, et dans cette évolution de l'univers, il y a eu l'évolution des étoiles, dans l'évolution des étoiles, l'évolution des planètes, dans l'évolution des planètes, l'évolution de la planète Terre sur laquelle est née la vie, et l'évolution de la vie, l'apparition de l'homme, bref, il y a toute cette histoire dont nous sommes le point culminant connu, et pas le point final, j'espère. Toute cette histoire s'inscrit dans la notion d'évolution.
C'est précisément cette évolution de l'univers, hein, depuis les premiers instants que vous étudiez, en recherchant le rayonnement fossile révélé par le satellite Planck, Cécile Renaud.
Oui, oui, tout à fait. On essaye de reconstituer son histoire. Et donc, depuis les tout débuts, alors quasiment les tout débuts, et puis a priori, bah, si le modèle est bon, on peut aussi prédire l'avenir. Mais ce qui, en fait, il faudrait, je pense, ajouter à cette description une couche encore. Mmh. C'est-à-dire ne pas oublier qu'on ne voit que notre univers observable et qu'il y a notamment des théories qui essayent de présenter des choses sur l'avant Big Bang, etc., où on peut avoir des multivers et notre univers ne serait qu'un univers parmi d'autres.
Donc il faudrait d'autres satellites Planck pour balayer tous les autres univers.
Ah bah ça, ce serait absolument sublimissime, mais a priori, on ne peut pas aller voir les autres univers.
Déjà voir le nôtre, c'est quand même assez
voilà,
compliqué.
Déjà, on essaye de voir le nôtre, mais il manque vraisemblablement, en tout cas c'est tout à fait possible, une couche à sa description encore au-dessus.
Eh oui, c'est ça, encore une évolution des univers ou des multivers,
voilà,
on ne sait pas
avec
bien.
Avec des univers. Alors, bulles, des arbres d'univers.
Là. Des arbres d'univers. On va revenir déjà à notre univers qui est totalement immense et qui est donc en expansion. Et son expansion s'accélère. C'est ça aussi que confirment les images de Planck.
Oui, tout à fait. Grâce à la fameuse énergie noire ou constante cosmologique. C'est elle qui est responsable de l'accélération. Puisque juste de la matière, ça aurait tendance à décélérer l'expansion. Puisque la matière, elle a tendance à attirer. En revanche, l'énergie noire ou la constante cosmologique, elle a tendance à dilater l'espace. Et donc, elle s'oppose à la matière. Et comme elle est en train de gagner en ce moment, l'expansion est accélérée.
C'est-à-dire aussi que cette énergie noire, on ne sait pas ce que c'est, mais on est de plus en plus sûr qu'elle existe, puisque c'est comme ça et à cause de ça que l'univers est en expansion. Et ça, on en est sûr, que l'univers est en expansion accélérée.
Oui, alors oui, oui, ça, l'univers en expansion, ça fait à peu près un siècle qu'à peu près tout le monde est d'accord.
au moins une chose de sûre. L'expanse... Donc il s'agrandit encore plus. Hein.
Voilà.
Tout s'agrandit.
Oui, c'est l'espace lui-même qui grandit. Hein, c'est pas les galaxies, c'est pas une vitesse.
C'est pas
propre.
Les galaxies qui s'éloignent.
C'est pas une galaxie qui s'éloigne d'une autre de sa propre vitesse. C'est le support. Si on met sur un damier, les galaxies c'est des points et c'est le damier, c'est les cases du damier qui se dilatent.
Encore plus sidérant.
C'est ce qui permet d'avoir que les galaxies tout s'éloignent de nous. On n'est pas le centre de l'univers. On est le centre de notre univers observable, par définition. Et pour que tout s'éloigne de nous, et ce d'autant plus vite que les choses sont plus loin, il n'y a qu'une façon d'y arriver, c'est d'avoir un espace en expansion. Et c'est lui qui est en expansion, et qui en ce moment est en expansion accélérée, doucement accélérée, et qui était en expansion incroyablement accélérée lors de l'inflation, lors des premiers instants.
Lors des tout premiers instants, l'univers. Alors, puisqu'on arrive en fin d'émission, Planck a fini de balayer l'entièreté de notre univers. Vous continuez-vous d'analyser ces résultats? Vous n'avez pas fini, mais Planck n'a pas fini non plus de livrer des mystères et des interrogations, évidemment.
Tout à fait. Là, en fait, on a livré les résultats uniquement pour la mission nominale, donc deux fois la totalité du ciel.
Deux fois la totalité
en fait,
du ciel.
En fait, Planck a marché très très bien, ce qui a permis de limiter la consommation de justement du gaz qui sert à travailler à 0,1 K. Donc en fait, on a observé presque 5 fois la totalité du ciel.
Ah donc vous avez encore
il nous reste 500 milliards de mesures.
500 milliards de mesures à analyser.
Oui, enfin en tout cas dont qu'on n'a pas livré. Et puis l'autre instrument, lui, il continue encore. Lui, il aura vu en tout, a priori, il travaille jusqu'en août. Il aura vu 8 fois la totalité du ciel. Donc ça va nous permettre d'affiner encore un petit peu la carte en température, qui est celle qu'on a livrée. Et puis, il y a une autre information sur laquelle on n'a encore presque rien dit, qui est la polarisation. Donc, en fait, la lumière, elle transmet de l'information par sa fréquence, sa couleur, mais aussi, elle a une autre information qui traduit sa dernière interaction avec la matière. C'est un petit témoignage de comment ça bougeait tout à la fin. Alors, c'est un signal qui est très ténu. Il est 100 fois plus faible que le signal en température, pour la partie la plus dominante de cette polarisation. Mais elle est extrêmement précieuse, puisqu'elle nous permet de voir comment bougeait la matière 380 000 ans après le Big Bang.
Et ça, ce n'est que le début de cette étude de la polarisation.
Voilà. Alors, on a quand même on a montré dans les résultats, on peut quand même déjà voir au niveau des fluctuations principales, on a prouvé que ça marchait remarquablement bien. Maintenant, les grandes échelles, il y a énormément de physique primordiale à faire avec. Et là, on en est au tout début.
C'était le 4 avril 2013. Nous étions en direct avec la formidable astrophysicienne Cécile Renaud, brutalement et tragiquement disparue le 4 avril dernier, à 40 ans à peine, des suites d'un accident de voiture. Nous tenions à nous joindre à ses proches, à ses amis, à toute la communauté de cosmologistes, de physiciens, professionnels et amateurs du monde entier pour rendre hommage à cette brillante chercheuse si enthousiaste, pour partager sa quête des tout premiers instants de l'univers, notamment sur son blog Cosmologiquement Vôtre. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous vous proposerons un autre genre d'odyssée sur les traces de nos gènes qui racontent toute l'histoire de notre humanité forcément métissée. Ce sera avec la généticienne des populations Evelyne Heyer, à réécouter sans modération avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour cette semaine de rediffusion à partager ensemble, chers amis auditeurs. Merci pour votre fidélité et pour votre curiosité. Surtout garder l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
7 milliards de voisins.